Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de notre série qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à Asnières, devant l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Asnières, sur le parvis de Notre-Dame du Perpétuel Secours, en compagnie du Père Victor, qui est vicaire de la paroisse d'Asnières-Centre. Bonjour le Père Victor.
Bonjour Anne-Sophie.
Nous sommes aussi avec Anne-Laure Schuller, qui est paroissienne, membre de l'EAP et responsable de la communication de la paroisse Asnières-Centre. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Anne-Sophie.
Nous sommes aussi avec Henriette Brolemoine, vous êtes paroissienne et vous êtes dans le comité de pilotage pour la rénovation de l'église. Bonjour Henriette.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler de la paroisse, de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc on est devant la façade, qui est une façade étonnamment moderne par rapport au reste de l'église.
Oui, cette façade, elle vient d'être rénovée. Cette église n'avait jamais été terminée et elle était fermée par, on peut appeler ça une façade, mais c'était vraiment pas joli. C'était une fermeture provisoire qui a quand même duré plus de 80 ans. Et en 2019, nous avons lancé les travaux pour rénover cette église et lui donner une façade digne de l'objet de cette église qui était au départ un lieu de pèlerinage. Et comme elle est dédiée à la Vierge Marie, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous avons tenu à ce que dès la façade, il y ait cette silhouette de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui puisse honorer la Vierge Marie depuis l'extérieur et inviter à entrer, puisque cette façade, nous avons choisi qu'elle ait une grande partie vitrée avec cette silhouette au centre et cette grande partie vitrée qui invite à entrer.
Alors, ce qu'on peut dire de cette façade, c'est qu'à l'intérieur de l'église, il y a donc l'icône Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est une icône particulièrement vénérée. Et cette façade s'attache à reproduire dans le monde, dans la ville, dans la rue, pour tous, cette icône. Et à travers ça, elle dit aussi ce qu'est notre vocation de chrétien, de baptisé, de signifier à tous, de montrer à tous le visage de Jésus, le visage de Marie.
Nous venons d'entrer dans l'église, nous avons traversé le narthex. Nous avons tenu à créer ce narthex comme une sorte de sas entre l'extérieur et l'intérieur de l'église. Et nous avons tenu à ce que cette façade vitrée, la porte vitrée et le narthex vitré invitent le passant à entrer et attirent l'œil vers l'autel, vers l'icône, vers les vitraux qui surmontent l'autel et l'icône, et donc nous invitent à nous approcher. Nous sommes maintenant entrés au centre de l'église et nous nous avançons vers l'autel et vers l'icône.
Cette icône, considérée comme miraculeuse et autour de laquelle l'église est construite, a, dit-on, été écrite par un moine en Crète au XVe siècle et est vénérée depuis 1868 grâce aux rédemptoristes. En 1934, le quartier était en pleine expansion et l'église Sainte-Geneviève voisine était devenue trop petite. C'est le cardinal Verdier, des fameux chantiers du cardinal, qui a œuvré pour que soit construite ici ce nouveau lieu de culte. On retrouve d'ailleurs ses armes sur un des piliers de l'église. C'est l'abbé Muller, alors curé d'Asnières, qui insista pour que ce sanctuaire soit dédié à Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui, disait-il, l'avait secouru personnellement au moins 3 fois.
La particularité de l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, ce qui permet de la reconnaître parmi les autres icônes dédiées à la Vierge, c'est bien sûr une Vierge à l'enfant. Il y a de chaque côté un ange et le pied de l'enfant Jésus comporte une sandale qui se détache et qui reste reliée au pied par une petite lanière, ce qui symbolise le rachat de nos péchés. Cette église, construite en 1934, a été construite dans le style néo-byzantin, très à la mode à l'époque. Et donc l'icône est au sommet de ce maître-autel, caractérisé par des mosaïques dorées, rouges et bleues principalement, avec un ange agenouillé de chaque côté de ce maître-autel. L'église a donc été construite dans un style néo-byzantin, mais il se trouve qu'à l'époque, l'architecte Alfred Nasuski a mis en œuvre des méthodes totalement révolutionnaires, totalement nouvelles pour construire cette église. Elle donne l'impression d'être construite en pierre de taille, alors qu'il s'agit d'une charpente métallique et avec des pierres moulées en béton. C'est donc une église en fait en béton armé, mais qui donne l'impression d'être construite en pierre. Depuis longtemps, un projet de rénovation était envisagé pour terminer l'église et lui donner une façade digne de ce nom, et aussi pour la rénover parce que plus de 80 ans, l'église donnait des signes de vieillissement. Le projet de rénovation a vu finalement le jour ces dernières années et les travaux ont commencé en 2019. Dans le cadre de ces travaux, le chœur a été réaménagé et un nouveau mobilier liturgique a été commandé auprès du sculpteur Alain Dumas à la suite d'un concours organisé avec l'aide de la commission d'art sacré du diocèse. Notre cahier des charges était que ce nouveau mobilier liturgique prenne toute sa place dans le chœur sans être en concurrence avec l'ancien maître-autel et qu'il puisse attirer l'œil lorsqu'on entre dans l'église, que l'on identifie bien que le nouvel autel était l'autel de la célébration liturgique, mais qu'il puisse dialoguer, que ce nouveau mobilier liturgique puisse dialoguer avec ce qui préexistait. L'autel et l'ambon ont donc été réalisés en marbre blanc venant du Portugal. Ils attirent donc la lumière. Lorsqu'on entre dans l'église, la lumière est accrochée et en quelque sorte réverbérée par l'autel et par l'ambon. Et pour dialoguer avec les couleurs préexistantes des mosaïques du maître-autel, le lambon est complété par des plaques en émaux de couleurs rouge et bleu et avec une plaque, la plaque supérieure, qui interchangeable, qui prend les couleurs liturgiques, les couleurs du temps liturgique. La croix de cœur est également réalisée en émail dont les tons rouge et bleu qui dialogue avec les mosaïques du maître-autel.
Le nouveau mobilier liturgique ayant été posé, installé, on a pu procéder à la dédicace de l'église qui n'avait jamais eu lieu. L'église a donc été dédicacée le 7 février 2021 par notre évêque Mgr Rouget qui est venu à cette occasion. Ça a été l'occasion d'une grande et belle célébration avec de nombreux paroissiens. Au cours de la dédicace d'une église, on va notamment faire des onctions sur les 12 croix de consécration qui sont venues habiller les piliers, les colonnes de cette église. Et puis on a réalisé aussi la consécration de l'autel nouveau et la bénédiction du reste du nouveau mobilier liturgique. Au cours de la dédicace, on a aussi placé à l'intérieur de l'autel plusieurs reliques. C'est une tradition dans l'église de placer dans les autels des reliques de saints que nous vénérons aussi d'une certaine façon. Et ainsi, quand vous voyez le prêtre embrasser l'autel, au début ou à la fin de la messe, eh bien, ce sont ces reliques de saints qu'il vénère.
Au-dessus du maître-autel, le fond du cœur abrite trois grands vitraux des ateliers Mauméjean.
Mauméjean est la signature en nom collectif de maîtres verriers et mosaïstes dont les activités se déroulent dans leurs ateliers sur trois générations. Elle débute avec Jules-Pierre Mauméjean, peintre verrier. Après avoir reçu sa formation artistique de son père Joseph et de son grand-père maternel Jacques Dufaux, tous deux peintres sur faïence, il établit à Pau en 1860 son premier atelier. Sa raison commerciale était alors manufacture de vitraux pour églises et oratoires, fournitures pour enseignes et étendards, peinture murale, installation de stores pour appartements remplaçant avantageusement les persiennes. Déplacé à Anglette puis Biarritz, les ateliers de Jules Mauméjean équipèrent de vitraux bon nombre d'églises, d'établissements publics et de maisons particulières, d'abord en Béarn et au Pays Basque, puis, la notoriété venant, dans tout le sud-ouest. Ses relations avec les cercles madrilènes lui fournirent de nombreuses commandes, si bien qu'il établit des ateliers à Madrid, Saint-Sébastien puis Barcelone. Il finit même par devenir le maître verrier officiel de la maison royale d'Alphonse XII. Sur ses cinq enfants, quatre reprendront la manufacture. Joseph, Henri et Karl travailleront en collaboration, tandis que Léon fondera un atelier indépendant à Paris. C'est cet atelier parisien qui équipera Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les années 30, mais aussi dans notre diocèse, l'église Sainte-Marie-des-Vallées à Colombes dans les années 50.
Ces trois vitraux représentent d'une part une nativité, au centre, au-dessus du maître-autel, la crucifixion, et d'autre part, l'ascension. Ces vitraux sont très colorés. Nous avons la chance dans notre église d'avoir de magnifiques vitraux très colorés dans des tons rouges et bleus principalement et qui font écho au rouge et bleu des mosaïques du maître-autel et maintenant aux émaux de la croix de cœur et de Lambon qui ont été réalisés par le frère François Castingena Trévidi qui a travaillé avec le sculpteur Alain Dumas pour la réalisation de notre nouveau mobilier liturgique.
Ces vitraux, ils nous montrent la place de Marie aux côtés de son fils, comme c'est le cas sur l'icône. Sur l'icône, c'est Marie qui est notre secours, mais c'est aussi Jésus qui est notre secours. Et ainsi, sur ces vitraux, on voit, au moment de la nativité, Marie présentant son fils au berger et au mage. Marie, témoin du Christ ressuscité avec les apôtres, et au centre, Marie qui tient Jésus sur la croix avec cette phrase « Ecce mater tua, voici ta mère » qui est la phrase que Jésus dit à Saint Jean. Tout autour de l'église, il y a un chemin de croix sur les murs, un chemin de croix composé de mosaïques assez larges, à peu près 2 mètres de largeur pour chaque mosaïque, sur lesquels figurent des versets de l'Évangile, et puis au centre, une icône en mosaïque, dorée et polychrome, figurant les scènes de l'Évangile correspondantes.
Nous pouvons voir encore aujourd'hui à quel point ce sanctuaire a été fréquenté en voyant tous les ex-voto qui ornent les murs. Reconnaissance à la Sainte Vierge pour les guérisons obtenues. Reconnaissance à Marie. Reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes. Il y en a sur tous les murs et il ne s'arrête pas aux premières années de construction de l'église, du sanctuaire, lorsque des pèlerinages étaient organisés nombreux. Des ex-voto sont datés de 1950, 1952, 1957, 1960. Cette dévotion à la Vierge Marie a donc été extrêmement vécue dans cette église.
On trouve à droite du chœur un tombeau où repose le corps d'un prêtre qui a marqué l'église d'Asnières. L'abbé Daniel Joessel, qui est mort au champ d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1908, il est rapidement habité par la vocation sacerdotale et entre au séminaire français de Rome. Après son service militaire, il poursuit sa formation, il est ordonné prêtre à 27 ans et nommé à la paroisse Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine. Ce sera son unique ministère jusqu'à la mobilisation. Attaché à la formation spirituelle des jeunes, il crée plusieurs patronages, des camps scouts et des mouvements de jeunesse ouvrière. Lorsque survient la guerre, il est mobilisé dès septembre 1939. Il sera blessé le 20 mai 1940. Il mourra 10 jours plus tard, assisté par un prêtre. Il lui confie des lettres en guise de testament spirituel. Il était dévoué aux jeunes, il fut pour tous apôtre du Christ, manifesté par un sourire permanent, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un esprit de prière et de pénitence très développé.
1934, c'est l'année de la pose de la première pierre de l'Église, mais c'est aussi l'année de l'ordination de l'abbé Daniel Joessel, un de mes prédécesseurs comme vicaire des paroisses d'Asnières. En tout cas de la paroisse d'Asnières Sainte-Geneviève quand il a été ordonné prêtre. Ici, ce qu'on a dans cette église, c'est le témoignage de l'attachement d'une communauté paroissiale, d'une communauté de chrétiens, à l'un de ses pasteurs qui, aux yeux de tous, a été un témoin joyeux du Christ et qui est mort en odeur de sainteté. Il y a ici son tombeau parce que les paroissiens ont tenu à ce que son corps soit rapatrié dans l'église. Et une autre chapelle de notre commune s'appelle Saint-Daniel, en référence justement à cette figure de l'abbé Daniel Joessel.
Actuellement, un groupe de personnes travaille à constituer un dossier pour une possible ouverture d'un procès en béatification pour l'abbé Daniel Joessel.
Les travaux effectués à partir de 2019 ont considérablement transformé notre église. Ils font entrer maintenant la lumière à flot. Elle est comme transfigurée, vivante, lumineuse. Ces travaux ne sont pas complètement terminés puisqu'il nous reste encore à aménager et sécuriser le parvis, et qu'une phase ultérieure prévue consiste à construire le bâtiment d'accueil et la grande salle polyvalente adjacente. Pour tout cela, il manque encore des financements et une souscription est ouverte que l'on peut trouver sur le site de la paroisse.
Grâce à ces travaux d'aménagement, nous avons gagné un nouvel espace de célébration particulièrement chaleureux où il nous est bon de célébrer avec la communauté paroissiale ou parfois à l'occasion de célébrations diocésaines. C'est toujours une joie de vivre ces célébrations. Venez prier avec nous à ces occasions-là. Venez aussi simplement vous laisser baigner de l'atmosphère de cette église un jour ordinaire pour vivre un cœur à cœur avec le Seigneur et pourquoi pas prier devant cette icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous après l'été pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.